Alain Badiou, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour un échange. Vous êtes connu comme philosophe et votre œuvre est lue et traduite à travers le monde entier. Même si votre œuvre ne comprend pas que de la philosophie, elle comprend aussi de la littérature, tant par le roman, le théâtre que la critique. Mais ce qui vous rend le plus identifié peut-être auprès d'un large public, ce sont vos interventions politiques, aussi bien sur l'idée communiste, sur laquelle évidemment nous reviendrons, que sur l'actualité du monde en général et de la France en particulier. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous accueillir pour le premier volume de vos mémoires d'outre-politique, très dense volume qui va de 1937, votre naissance, jusqu'à 1985. On verra aussi pourquoi vous avez fait le choix de mettre 1985 comme borne de votre récit et qui permet de comprendre intimement la construction de votre subjectivité politique dans les remous de l'histoire. Alors, peut-être pour commencer, ce sont des mémoires au sens où vous faites le récit de votre vie, mais vous avez fait le choix de faire ce récit au prisme de la politique de façon presque exclusive. Pourquoi ce déterminant, on va dire, politique ?
Je pense que c'est parce que la conception que je me fais de la politique inclut, au fond, des visions générales, des orientations, etc., mais aussi pas mal d'événements qui concernent la subjectivité. Alors, j'ai voulu, en quelque sorte, écrire quelque chose qui suive ma vie pour l'essentiel, mais qui montre non seulement comment la politique a pu me guider, mais comment moi-même j'ai pu m'inscrire dans les moments successifs de cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai remplacé dans le titre de Chateaubriand, la mort par la politique.
Ce qui est effectivement un projet en soi. Alors, justement, d'ailleurs, le livre s'ouvre donc sur le récit de votre enfance. Vous naissez en 1937 à Rabat. Et ce qui est assez singulier, c'est que dès le début, vous faites de chacun des épisodes de votre vie et donc de votre prime enfance une forme de leçon politique, si l'on veut, au sens où vous le racontez, vous êtes un enfant, on va dire, pas véritablement désiré par sa mère, qui, d'une certaine façon, sans complètement vous rejeter, en tout cas, ne vous porte pas une affection considérable. Et de cela, vous dites que ça vous porte à une sorte d'autonomie, très rapidement, parce qu'en fait, il faut que vous construisiez par vous-même, et même à une capacité à fuir et à être clandestin.
Oui, et je dirais même que si on ajoute à cela que mes toutes premières années se passent à Rabat, puis à Casablanca, donc dans une situation coloniale, je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose de cette nécessité due à ma mère de ne pas être dans le parapluie familial, mais de rechercher la relation avec d'autres, en l'occurrence la relation avec les dames arabes à qui ma mère me livrait pourrait en être débarrassée, si je puis dire, que ceci a certainement quelque part dans mon préconscient ou mon inconscient guidé aussi certains aspects sur lesquels on reviendra de ma politique. Et je pense que c'est aussi pour cela que, dès le début, je me suis installé dans l'idée, non pas de raconter la politique, pour en parler, non pas de raconter ce que je suis du point de vue psychanalytique, etc., même si j'y fais des allusions, mais en quelque sorte de raconter d'un seul trait le devenir de moi comme sujet et finalement les modifications de l'histoire. Voilà. Et que c'était un peu ça qui m'a servi de guide pour ce volume.
Alors, et justement, parmi les déterminations politiques que l'on peut compter, il y a évidemment la figure de votre père, qui est une figure, là, pour le coup, proprement constitutive et positivement constitutive de ce que vous allez pouvoir devenir, au sens où votre père, qui est donc professeur de mathématiques, est aussi, va devenir, alors, presque par accident, si l'on veut, un personnage politique, mais duquel vous allez tirer un certain nombre de leçons extrêmement importantes sur aussi bien le rapport de l'équivalence en termes de valeur du travail manuel, du travail intellectuel, et ce qui compte à la fin, c'est que le travail soit bien fait. Ça, c'est une donnée importante, la question de la politique, évidemment. Et puis un point sur lequel vous insistez, qui me semble très fort, qui est que la résistance s'est vécue de son côté comme l'idée qu'il y a un moment où les principes priment sur les contingences historiques. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut, c'est le principe quand même qui détermine l'action.
Oui, ça, c'est évidemment une leçon paternelle tout à fait cruciale, hein, tout à fait cruciale. et elle survivait même quand je me suis trouvé beaucoup plus tard dans une sorte de désaccord superficiel avec mon père, ce qui est arrivé évidemment quand je suis devenu plus gauchiste que lui. Mais en fin de compte, la leçon est quand même fondamentale. Et je la raconte dans les termes qui m'avaient beaucoup frappé quand j'ai demandé à mon père comment il se faisait qu'il était entré dans quelque chose d'aussi difficile et dangereux quand même que la résistance armée à l'occupation nazie de la France. Il m'a répondu d'un ton extrêmement calme et surpris que c'était une évidence puisque les Allemands occupaient la France, que pouvaient faire d'autres que résister. Alors, il y a eu dans cette relation à des principes cette espèce de calme et de conviction. Je ne sais pas si j'en ai hérité pleinement, mais en tout cas, ils étaient très présents chez mon père et ça a beaucoup soutenu ma conception de la politique.
Et alors, justement, avant cette conception de la politique, elle va d'une certaine façon se cristalliser une première fois. On verra qu'il y a d'autres étapes où elle se cristallise en 1954, justement, avec donc entre autres l'accès de Mendès France au pouvoir, qui est pour vous un premier moment, et évidemment le déclenchement de la guerre d'Algérie, qui est pour vous un premier moment dans lequel la politique en tant qu'événement intervenant dans la société devient centrale et vis-à-vis de laquelle il faut vous considérez qu'il faut vous engager, si l'on peut employer ce mot-là.
Absolument. C'est le mélange d'une circonstance historique objective, à savoir les guerres coloniales en général, et celle du Vietnam est aussi commencée, et la guerre d'Algérie de façon centrale pour moi. C'est la liaison entre cela et, je reviens un peu sur ce que je disais au début, et au fond, une figure subjective adapté à mes yeux à cette conjoncture. En l'occurrence, ça m'a été fourni en effet par Mendès France. Dans mon devenir politique, je n'ai pas suivi particulièrement Mendès France. Il appartenait aux radicaux socialistes. Il était au fond un homme de gouvernement, etc. Mais ce qui m'a frappé, c'est la netteté, la concision et la rigueur extrême qu'il mettait dans son engagement, au point de mettre véritablement un poste très important dans la balance. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, Mendès France, qui est devenu Premier ministre, mais qui est devenu Premier ministre en avertissant tout le monde, je le cite d'ailleurs, que être Premier ministre, ça voulait dire qu'on ferait ce qu'il décidait. Voilà. Et qu'il était nullement prêt à ne pas faire ce qu'il avait décidé. Et ça, je crois que c'était pour moi un héritage précieux.
Avec ce moment qui est important, parce que c'est une chose qui est su, et on y reviendra bien évidemment. Le cœur de votre engagement se fait sous la bannière du maoïsme, on peut dire ça comme ça, et votre premier engagement politique donc, se fait dans la SFIO. Vous y revenez longuement, et puis après on verra avec les étapes successives et comment on passe de l'un à l'autre. Mais qu'est-ce qui, à ce moment-là, on pourrait penser que spontanément, pourquoi pas le Parti communiste ? Pourquoi ce parti-là, la SFIO, qui au milieu des années 50 est à la fois très important en termes électoraux et en même temps, on va dire, un peu flottant d'un point de vue idéologique, c'est-à-dire pas avec un bloc, pas avec un corpus idéologique très clair.
Absolument. Vous avez tout à fait raison de faire cette remarque, parce qu'on pourrait imaginer que c'est la dimension idéologique qui l'emporte. Mais comme je l'en avais déjà fait l'expérience avec Mendès France, dont on vient de parler, ça n'est pas exactement le cœur de la question pour moi. Le cœur de la question est que la politique est quelque chose qui demande des décisions. Et ces décisions doivent être justifiées par des idéologies, d'une part, et le traitement des situations concrètes, d'autre part. Bon. Mais une fois qu'on a dit cela, l'engagement politique, dans les conditions de l'époque, ne pouvait pas entièrement me convaincre quant à la question du Parti communiste. Effectivement, j'ai trouvé en particulier que, vu ce qu'il était, vu qu'il n'était pas même dans l'obligation gouvernementale, puisqu'il était dans l'opposition, sa mollesse sur la question de la guerre coloniale m'a éloigné véritablement et de façon un peu définitive de cette figure d'organisation qui se présentait comme extrêmement centralisée, autoritaire et disciplinée, mais qui, sur une question aussi fondamentale que dans une guerre coloniale de quel côté on se trouve, devenait tout d'un coup prudent et un peu circonspect. Et alors, je suis entré au Parti socialiste. On peut toujours dire qu'après tout, c'était sous l'image de mon père quand même. Il était le maire socialiste de Toulouse. Donc. Mais je crois que c'était aussi dans l'idée consciente qu'on pouvait constituer à l'intérieur du Parti socialiste une figure d'opposition interne à sa direction actuelle, c'était Guy Mollet, à la fois chef du gouvernement et chef du parti, alors que cette liberté n'existait absolument pas dans le Parti communiste. Et je pense que c'est l'idée de faire passer, d'inventer une gauche anticoloniale véritable qui m'a poussé à ce moment-là dans le Parti socialiste et plus tard à pratiquer les diverses scissions qui ont multiplié ce parti.
Avec cette, c'est ce que vous dites, c'est que finalement, ce parti-là a laissé un espace, et un espace dans lequel vous allez pouvoir exercer une qualité à laquelle vous tenez, que vous évoquez à plusieurs reprises dans le livre, qui est à la fois une qualité organisationnelle et aussi une qualité, on va dire, de conviction par rapport à des groupes. C'est-à-dire que ça, vous l'exercez très tôt, on va dire, dès le collège, le lycée. Après, vous intégrez l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Mais ça, c'est une donnée très importante dans votre parcours politique. C'est l'idée que occuper cette place-là, ça vous intéresse. C'est-à-dire que vous considérez que vous avez une capacité, c'est celle-là, et qu'il faut l'exercer.
Oui, absolument. Ça revient d'ailleurs un peu sur la définition que j'ai de la politique, c'est-à-dire la politique, elle ne se résume ni dans une conviction, dans des actions, elle se joue dans le lien entre les deux. C'est-à-dire comment, c'est déjà ce que j'ai remarqué à propos de Manès France, alors que je n'étais pas vraiment d'accord avec lui, j'admire que dans la politique, le fait que l'action, le jugement concret sur les situations, soit capable d'être fidèle et même de servir d'exemple sur les convictions, par ailleurs idéologiques et générales, qui sont celles du militantisme. Et je me suis exercé à cela dans des conditions tout à fait spéciales, qui étaient celles d'une opposition interne au Parti socialiste, qui a abouti ensuite à des scissions sur lesquelles nous reviendrons. Mais je crois que le point essentiel, c'était que dans les situations que je considère comme des situations politiques, pour moi, il s'agit toujours du nœud entre une idéologie et des principes et la particularité des situations. Et qu'en particulier, l'ennemi de tout cela, c'est l'idée de faire la politique pour obtenir un morceau de pouvoir.
Et cette lecture, elle est très importante, puisque dans la lecture que vous faites de la guerre d'Algérie, elle est pleine de nuances, au sens où vous ne cessez de dire qu'il n'y a pas pour vous, dès cette époque-là, l'évidence qu'il faut soutenir le FLN, que il n'y a pas que des gens vertueux d'un côté et des salauds de l'autre, pour le dire comme ça, et qu'au contraire, mais que les circonstances imposent à un moment donné de soutenir l'un plutôt que l'autre, faire ce que vous allez faire, c'est-à-dire participer, même si c'est par un journal au réseau Janson. Et cette dimension-là, elle est très importante aussi. C'est toujours avoir le sens de la nuance et de l'action, néanmoins, par derrière.
Absolument. C'est-à-dire que le principe dont je parlais, qui est la connexion, finalement, entre ce qu'on pense, ce qu'on a comme principe d'un côté et la situation de l'autre, c'est un principe dont il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'organisation absolument conforme à vos principes, que vous n'êtes pas en état de la créer comme cela, ou que la situation est très compliquée parce qu'il y avait des oppositions à la guerre d'Algérie très différentes les unes des autres, finalement. Et donc, il faut se frayer un chemin là-dedans. Et la guerre d'Algérie a été d'autant plus une école, si je puis dire, sur ce point, que c'était une situation extraordinairement embrouillée. La guerre avait été finalement déclenchée par un gouvernement socialiste. Les communistes se sont montrés pendant longtemps extrêmement peu actifs sur la question de la guerre coloniale. Ils avaient en coulisses l'idée que si la France abandonnait l'Algérie, ce serait l'Amérique qui s'y installerait et que ça, c'était plus important que l'histoire des Arabes, finalement. Hein. Et donc, je cherchais un chemin où cette liaison entre la conviction et ce qu'on fait, finalement, et ce qu'on dit, pouvait se faire. Et au fond, je me suis dit qu'être un opposant à la guerre coloniale interne au Parti socialiste me donnait le champ pour cette liberté. Ça a amené, en général, ce genre de conviction à une série de changements organisationnels dans ma vie. Parce que, finalement, une des expériences négatives de la politique, en tout cas de la politique parlementaire, telle que je l'ai rencontrée et pratiquée, c'est que très souvent, on subordonne la décision ou la conviction plutôt, comme je le disais tout à l'heure, à la dose de pouvoir qu'elle peut vous rapporter qu'à des principes. Et ça, ça fait qu'il faut naviguer avec cela dans la politique parlementaire.
Et alors, justement, puisqu'on parle de principes, c'est aussi le moment où vous choisissez la philosophie comme devenir professionnel, puisque au sein de l'École normale supérieure, c'est le cursus que vous suivez, et puis vous passez l'agrégation dont vous sortez major en philosophie. Pourquoi, justement, qu'est-ce qui vous fait choisir la philosophie et pas, on peut imaginer, les mathématiques ou d'autres sujets qui vous intéresseront toujours?
Oui, absolument. Je crois que c'est tout de même Sartre qui a été décisif, là, à l'époque où on a besoin d'un maître. On a besoin d'un maître, et ça a été le mien. Et j'ai trouvé dans Sartre la connexion entre un dispositif philosophique novateur et intéressant, même si je l'ai beaucoup transformé ensuite. Mais enfin, il avait une intensité véritable. Quand je l'ai lu avec passion, véritablement, d'un côté. Et de l'autre part, lui, des positions très fermes, anticoloniales, et finalement, qu'on peut symboliser à un moment donné dans ce qu'il a déclaré beaucoup plus tard, à savoir tout anticommuniste est un chien. Bon. C'était quelqu'un qui avait le sens de la parole vigoureuse. Et donc je crois que c'est ça. La philosophie ne m'a pas été transmise par l'appareil scolaire proprement dit, mais par le hasard de la lecture que j'ai pu faire de quelques-unes des œuvres de Sartre, et puis finalement des œuvres centrales. Et même si ma philosophie s'est progressivement éloignée de ce point, à raison probablement aussi de la figure paternelle des mathématiques et de ce que Sartre était crédité avoir dit une fois « mathématiques peau de balle », ce qui n'était pas ma vision des choses, même si c'était comme ça, sur le moment même, avec en plus quelqu'un qui était très mobilisé contre la guerre d'Algérie, la philosophie m'a paru être ce que je pouvais, que finalement je devais faire comme discipline scolaire et universitaire.
Mais sachant qu'on pourrait aussi tracer des traits de ressemblance à plus long terme avec Sartre, dans la mesure où lui aussi a écrit du théâtre, lui aussi a écrit des romans, et lui aussi, et vous en êtes l'exemple quand vous en étiez jeune, avait une figure qui était une figure de maître, à la fois spéculatif, mais aussi intervenant dans la société, d'une certaine façon, qui est la position que vous avez fini par occuper.
Oui, c'est absolument. Non, mais je considère véritablement que même si ensuite, dans la construction de mon appareillage philosophique, ce n'est pas lui qui prédomine, il aurait difficilement supporté la concurrence avec Platon, ça c'est certain. Mais néanmoins, c'est lui qui m'a engagé dans une conception de la philosophie qui nouait véritablement l'existence. Existentialisme, l'existence et la conviction théorique. Et chez qui, d'une certaine manière, la sophistication théorique, parce que tout de même les livres de philosophie de Sartre sont assez denses, assez complexes, et renvoient en plus à tout un courant qu'il découvrait finalement, à savoir le courant de la phénoménologie allemande, cette complexité allait chez Sartre de pair avec ce qu'on pourrait appeler une simplicité, en tout cas une vigueur et une transparence des engagements politiques. Et donc, je crois que Sartre m'a appris qu'on pouvait être un philosophe, y compris un philosophe complexe quand il le faut, et en même temps, quelqu'un qui s'engage de façon militante et simple dans les grandes questions du moment.
Justement, pour ce point de jonction qui court tout au long du livre, entre le philosophique et l'existentiel, vous l'abordez d'une certaine façon autour de ce que vous appelez les procédures de vérité. C'est-à-dire, vous considérez qu'il y a quatre procédures de vérité, que sont les mathématiques, l'amour, la poésie et la politique, et que c'est finalement leur rassemblement sous l'espèce de lin philosophique qui fait une vie. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est qu'une procédure philosophique de vérité? Et puis peut-être l'incarner, puisque vous considérez qu'à certains moments de votre vie, vous incarnez ces différentes formes. Qu'est-ce que ça signifie pratiquement, si l'on peut dire, dans une vie d'homme?
Alors, nous entrons dans une question un tout petit peu plus complexe, évidemment, mais enfin, il faut bien y venir. J'ai décidé d'appeler procédure de vérité des engagements subjectivés qui provoquent en vous la rencontre de la possibilité de quelque chose qui a une valeur universelle. Voilà. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se donne à partir d'un événement, à partir de quelque chose que vous rencontrez dans l'existence. Ça peut évidemment être la lecture illuminée d'un livre, ça peut être la rencontre d'un amour, ça peut être l'engagement militant, bon, ça peut être tout ça. Alors après, ayant défini ainsi la vérité comme la conquête de l'universalité par un sujet singulier, voilà, je me suis intéressé aux différentes circonstances concrètes dans lesquelles ce type de rencontre peut se produire. Et il m'a semblé en distinguer dans toute l'histoire humaine quatre principales. La première, c'est évidemment la science, pas seulement les mathématiques, mais la science. La science qui s'empare de l'expérience au sens strict, de l'expérience matérielle, pour tenter de la formaliser dans des figures transmissibles à valeur universelle. Pour la science, ça ne pose pas de problème. Il y a ensuite, évidemment, l'art, parce que l'art fait pour, au fond, ce qui est la perception, à tous les sens du terme, la perception visuelle, la perception auditive, c'est-à-dire le rapport matériel au monde, fait ce que la science fait sur l'abstraction. C'est-à-dire, elle essaie d'en tirer des constructions qui auront une valeur universelle à proprement parler, et qu'on appelle, qui sont les œuvres d'art. Et puis, les deux autres basculent la chose du côté de l'existence, et non pas de la production matérielle d'une théorie ou d'une œuvre d'art. La première, c'est l'amour, parce qu'elle est l'expérience radicale de l'existence de l'autre. C'est-à-dire que là, l'amour, c'est ce qui est une péripétie décisive de la reconnaissance de l'autre comme vous étant nécessaire, et par conséquent aussi la reconnaissance de ce qu'il y a en vous de nécessité de l'altérité. Et c'est pour ça qu'elle a cet extraordinaire succès universel, c'est pas l'amour, on sait très bien que c'est loin de se résumer à de vagues, ça irrigue absolument, y compris par rétroaction, y compris l'activité artistique, évidemment. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que c'est quelque chose qui s'ouvre sur qu'est-ce que c'est d'intégrer dans sa propre vie l'existence d'un autre. Ça n'est pas simplement faire une rencontre et en jouir cinq minutes, quoi. Et puis la politique. Alors la politique, c'est la tentative d'organiser la société à partir de principes ayant effectivement une valeur universelle, c'est-à-dire d'universaliser l'existence sociale elle-même. Et donc, les quatre ensembles me paraissent explorer à peu près ce qu'on peut appeler la signification ou les significations d'une existence humaine. Voilà. À savoir, une connaissance possible de l'environnement général, une capacité, sinon à créer, du moins à jouir des représentations artistiques de cet univers, la découverte de la nécessité de l'autre pour compléter vos affects, et finalement, l'engagement dans l'universalisation des regroupements humains. Et ce sont ça que j'ai appelé les quatre procédures de vérité.
Avec, et on l'entend bien là, l'idée à chaque fois est l'importance de la notion d'universalité comme horizon. Mmh. Et ça, vous y revenez un peu plus tard aussi. C'est très important dans votre pensée. C'est l'idée que l'universel prime sur l'identitaire. C'est-à-dire que si vous avez une sorte d'ennemi idéologique, si on peut dire ça comme ça, c'est le réenfermement identitaire d'un point de vue politique, social, etc. Et que si on veut pouvoir agir d'un point de vue aussi bien philosophique que politique que de la science, il faut avoir un horizon qui est l'universel.
Absolument, et c'est en ce sens-là que je me suis finalement déclaré communiste. C'est-à-dire, au fond, il y a des moments où on ne peut se construire valablement qu'en faisant prévaloir ce qu'il y a de commun sur ce qu'il y a d'absolument singulier. Et dans l'ordre de la politique, ça veut dire que toute politique identitaire est une politique nuisible. Alors, et les politiques identitaires, on en a des exemples évidemment catastrophiques, et particulièrement à notre époque, d'une certaine façon, que ce soit évidemment les racismes, que ce soit les nationalismes déchaînés, etc. Tout ça, c'est de ce matériau-là que se constituent les grandes catastrophes de l'histoire humaine, malgré tout, les grands massacres, les grandes horreurs de l'histoire humaine. Et donc, je pense que surmonter tout cela, c'est-à-dire percevoir à tout moment que ma singularité existe, mais n'a pas à déclarer qu'elle est universelle, voilà. Et elle doit au contraire se nourrir d'un goût de l'universalité qui lui fait intégrer l'altérité et non pas la rejeter. Que ça, c'est pour moi une détermination absolument essentielle, mais que je me désole de voir que finalement, à propos de la question dite des migrants, on retombe dans l'éternel bassin de l'hostilité à l'autre, etc. Et que ça, c'est des choses que je combats depuis toujours.
Et alors, simplement pour, par rapport à ce moment de, presque de côté un peu théorique, ce qui peut être frappant en lisant votre livre, c'est, pour les mémoires de quelqu'un qui a fait toute sa vie de la philosophie, c'est à quel point il y a finalement presque peu de noms de philosophes dans ce livre. Alors, il y a celui de Sartre que vous avez évoqué, évidemment celui de Platon, sur lequel vous avez immensément travaillé, mais vous avez traversé cette époque des années 50, 60, 70, et puis jusqu'à nos jours. Et finalement, par incise, apparaît dans le livre Foucault, Deleuze, Canguilhem, mais de façon, on va dire, presque anecdotique, c'est pour un fait. Mais c'est assez peu présent, finalement, parce que vous considérez que ce n'est pas l'objet de ces mémoires-là qui ont un horizon purement politique, ou est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas ce dont vous vous nourrissez ?
Je crois que j'ai toujours eu une sorte de position diagonale par rapport à ma contemporanéité philosophique. D'une certaine manière, j'ai connu à la fois l'œuvre et un bon nombre des personnes constituant le courant philosophique a été appelé les nouveaux philosophes, mais au fond, toute la philosophie contemporaine, aussi bien d'ailleurs allemande que française ou même italienne. Bon, j'ai connu tout cela, mais j'ai connu tout cela dans une sorte de conviction que ce n'était pas ma source essentielle. C'était éventuellement un lieu de discussion. J'ai fait, y compris à la télévision, des dialogues avec la plupart des gens que vous citiez. Je les ai donc connus aussi personnellement. Je les ai fréquentés, ne serait-ce que dans l'université de Vincennes, où un bon nombre d'entre eux étaient rassemblés. Mais en vérité, ça n'a jamais été le lieu de la constitution de ce que je pensais en profondeur, et même si je ne reculais nullement devant la discussion avec eux. Mais après tout, j'ai pu écrire même un livre sur Deleuze, un livre entier sur Deleuze, etc. J'étais pas dans l'ignorance, ni même dans l'hostilité. Mais ce n'était pas mon point de départ. Voilà, ça n'a pas été constitué comme mon point de départ, parce que je pense que mon point de départ s'est situé un peu en amont de tout cela, peut-être. J'étais, en vérité, j'avais le sentiment d'être un peu d'une autre génération, avec un petit décalage, mais un décalage qui était significatif. Et d'autre part, parce que je trouvais que leur orientation philosophique ne les avait pas amenés au même, en général, hein, avec des variations, mais n'avait pas amené aux mêmes conclusions de circonstances ou de politique au sens étroit du terme, et que par conséquent, je n'arrivais pas à faire front avec eux, sauf évidemment sur des questions massives. Hein. Aucun, évidemment, de ceux que vous avez nommé, n'étaient partisans de la guerre d'Algérie, etc. Enfin, ils se sont même, pour un certain nombre d'entre eux, toujours affirmés de gauche et tout ça. Mais c'était pour moi des personnalités importantes et significatives, mais qui n'ont jamais pu devenir, à mes yeux, c'est peut-être de ma faute, plutôt que de la leur, mais qui n'ont jamais pu devenir, à proprement parler, des références majeures de mes propres constructions. Alors, mes propres constructions, en fin de compte, quel a été leur horizon ? Il a été un horizon tout à fait paradoxal, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire, il a été un horizon qui, par un certain versant, communiquait tout de même avec une théorie radicale de la subjectivité libre, et que j'héritais de Sartre, là, et d'un autre côté, à cause de ma formation mathématique, quelque chose qui, au contraire, se référait à l'abstraction des structures de façon très plénière. Et alors, selon les rapports que les philosophes que vous mentionnez avaient avec l'une ou l'autre de ces catégories, je pouvais parler avec eux. Mais je n'en voyais aucun qui ait exactement les deux ensemble. Alors ça, je crois que c'est un peu, depuis le début de notre discussion, un thème général, c'est-à-dire... il y a toujours dans les situations un élément de singularité et il faut savoir si cet élément de singularité est un témoin d'un élément d'universalité. Et cet écart, c'est là que je situe la philosophie. C'est la raison pour laquelle on peut après tout me dire platonicien, parce que c'est un peu l'écart qui, chez Platon, sépare la vie ordinaire et les idées.
Et avec justement comme point de rassemblement, et ça donne lieu à de très belles pages dans le livre, la question de l'expérience, de la rencontre, justement, à la fois de ce qui est un autre et de ce qui est un ferment de la pensée. Je pense au moment qui se passe en Belgique, dans lequel vous allez rencontrer des ouvriers à l'occasion d'une grève, mais aussi le récit que vous faites à partir de notes que vous aviez prises à l'époque du voyage que vous faites en Bolivie, au moment où, du procès autour de Régis Debray, et qui, on le voit bien, sont deux moments dans lesquels, là, comme vous dites, on a affaire à des situations, c'est-à-dire des moments donnés dans un lieu donné, mais qui sont pour vous le moment à la fois de rencontrer une forme d'altérité, puisque ce n'est pas le milieu qui est le vôtre spontanément, mais qui sont là aussi des horizons d'universalisme politique.
Tout à fait, je vous entends tout à fait, je vous donne tout à fait raison. Il y a aussi comme cela des grandes expériences, si je puis dire, qui pourrait donner lieu à des protestations de l'identité. Hein. L'identité, mon identité, est malmenée par des circonstances que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, ou qui sont d'un intérêt qu'il faut découvrir, etc. etc. Mais finalement, ce sont des expériences pour moi tout à fait décisives du point de vue de ce qu'est ma conception de la philosophie. À savoir, en fin de compte, toujours... enregistrer philosophiquement que la singularité et l'identité ne suffisent pas et que l'altérité est un point de départ obligé pour se tenir sur un horizon universel.
Avec une dimension, et justement, cette forme d'altérité, vous allez en faire... d'une certaine façon, l'expérience en 68, qui est donc la grande cassure à la fois de votre existence, manifestement, et du livre aussi. 68, qui vient comme point dernier de ces années 60, où vous racontez une espèce d'évolution presque dichotomique chez vous, entre d'un côté presque une forme de notabilisation à Reims, où vous êtes enseignant, reconnu, cadre politique du PSU à ce moment-là, et puis... au travers des expériences qu'on a évoquées là, peu à peu aussi, la prise de conscience d'une nécessité d'un au-delà de cette politique qu'un horizon, on va dire, plus révolutionnaire, et que tout ça va venir se rencontrer en 68.
Oui, absolument, en 68, et de 68, et ce qui a suivi a été évidemment l'école principale de cette solution d'un problème, en réalité, à propos duquel j'étais encore un peu errant. Comme vous l'avez remarqué, après tout, pourquoi le Parti socialiste, il ne paraissait plus quand même porteur d'une universalité très convaincante. Et être le secrétaire de la fédération du PSU pouvait paraître une singularité vraiment peu exposée à l'universel. Et effectivement, 48 est venu à travers ce que je raconte en détail, à travers une expérience fondamentale qui a été, en fait, une expérience de classe, alors cette fois, au sens le plus classique du terme. c'est-à-dire cette grande manifestation des intellectuels, des étudiants, etc., en direction de l'usine, dans sa définition la plus stricte, les usines des voitures chaussons à Reims, et la découverte que nous pouvions réellement faire de cette singularité-là, cette manifestation singulière, le porteur d'une universalité politique cohérente. C'est-à-dire qui inclurait véritablement les classes, en fait, qui reprendrait les classes, une considération de classe, dans un motif qui serait moins celui de la représentation de classe, qui était le modèle actif, mais justement de l'universalité au sens où la rencontre avec la classe opprimée, la classe salariée, la classe ouvrière, se faisait d'un point de vue non pas abstrait, mais incarné. Et c'est pour ça que cette manifestation a, en un certain sens, décidé de mon avenir.
Avec deux données qui sont importantes. Alors, pour reprendre des catégories qui sont les vôtres, et vous le dites d'une certaine façon, cet événement que vous décrivez, cette manifestation, et on veut dire les événements autour de 68, c'est un événement qui s'empare et dévaste un sujet, c'est votre formule. Et puis, il y a aussi, au même moment, la formule d'une critique, moi je trouve très très belle, qui dit vous avez une vie pleine, mais qui n'est pas destinée. C'est-à-dire que quelque chose se crée à ce moment-là où vous comprenez ce qui est une sorte de destin, je ne sais pas le mot, ce que vous mettez sous cette idée de destin, mais ces deux choses-là sont très importantes. C'est-à-dire que ce qui est à l'œuvre là aussi, il y a le versant théorique que vous avez évoqué là, mais il y a l'idée que ça vient s'emparer d'un sujet et que ça le modifie très profondément.
Absolument, et c'est ce qui nourrira plus tard, en réalité, dans mon œuvre philosophique, la théorie de l'événement. C'est-à-dire quelque chose qui est rencontré. Et je pense que la catégorie de rencontre est une catégorie très importante pour moi. C'est-à-dire que je pense que dans la vie, il y a des structures, il y a des données, il y a des conquêtes, etc. Mais il peut y avoir véritablement une expérience radicale de l'altérité ou des choses de cet ordre qui constitue une rencontre. Alors, c'est aussi revenir, si l'on veut, sur la vérité de l'amour qui est entièrement constituée par la rencontre, justement. Mais j'utilisais cette catégorie plus largement, finalement. L'idée de la rencontre est donc l'idée d'une forme possible de conversion à l'universel, était exemplifiée en 48 pour moi de façon tout à fait frappante, puisque j'expérimentais que, y compris prolétariat, ce mot à la fois fondamental et obscur, fortement manié de façon despotique en Union soviétique, par exemple, que ce mot prolétariat signifiait quelque chose, c'est-à-dire signifiait l'universalité effective de cette figure de la rencontre avec, au fond, un statut social entièrement différent. Et c'est pour ça que nous restons, depuis le début de cette entretien, ce qui prouve votre cohérence d'ailleurs, nous restons depuis le début dans cette figure de la rencontre, en réalité, comme le moment où l'expérience de la singularité est l'épreuve de l'universalité. Alors que souvent, on raisonne de l'inverse. Il y a l'universalité, et puis finalement, la singularité vient perturber et montrer que l'universalité, c'est du baratin, quoi. Et moi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, il y a des moments où quelque chose d'absolument singulier, une rencontre, une manifestation, un nouveau mot d'ordre, n'importe quoi, témoigne de la possibilité de l'universel dans le particulier lui-même. Et le livre, si on regarde bien, est un peu jalonné d'expériences de cet ordre. Et elle qualifie, je crois, de manière essentielle, ce que politique, mais ce que finalement toutes les procédures de vérité signifient pour moi.
Mais alors, justement, au titre des rencontres, pourquoi est-ce le maoïsme que vous rencontrez ? Pourquoi c'est cette forme-là que va prendre votre engagement politique ? Et qu'est-ce que ça signifie ? Alors, puisque là, on parle donc de 60 ans après, où ce mot a été recouvert par bien des choses. À ce moment-là, donc dans le tournant des années 60-70, et puis évoquer aussi peut-être pour des mauvaises raisons selon vous, mais le versant le plus connu est le mouvement de la gauche prolétarienne, sur lequel vous avez bien des vilaines choses à dire. Mais voilà, c'est intéressant aussi, pourquoi ce maoïsme et pourquoi ce maoïsme-là ?
Alors, le maoïsme a simplement, mais c'est-à-dire difficilement en réalité, le maoïsme a incarné en réalité la première théorie qui tentait de rester interne au marxisme et même au léninisme, etc., tout en, à partir de cette fidélité, traitant de l'échec de l'Union soviétique. Cet échec de l'Union soviétique, pour moi, il était patent depuis longtemps. L'Union soviétique des années 50 ne m'intéressait aucunement, franchement. Que l'espace qui va de là à Gorbatchev, tout ça, j'y voyais même une espèce de sourde tentative, au fond, d'intégrer la Russie à l'Europe occidentale dans son malheur capitaliste, tout en restant un tout petit peu autre chose. Et alors cette autre chose, c'est quand même Mao qui l'a désigné. Le Mao qui s'est révolté contre cette figure, d'abord lors des rencontres systématiques entre le parti russe et le parti chinois dans des circonstances internationales dans lesquelles la Chine a fait connaître son opposition aux orientations soviétiques pour la première fois. C'est la première fois qu'un pays se réclamant du communisme prenait la Russie à contre-pied. Hein. Alors ça, c'était déjà quelque chose de significatif. Et ensuite, il y avait le fait que la Chine, enfin, la direction chinoise, avait pris sur les questions coloniales des positions beaucoup plus radicales et beaucoup plus importantes que l'Union soviétique. Et enfin, il y a eu le fait que tous ces problèmes qui étaient présentés au départ comme des différences entre la Chine et la Russie sont devenus un débat interne à la Chine. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la révolution culturelle, qui s'est appelée la révolution culturelle. Alors, la révolution culturelle fait partie absolument de ces singularités qu'on rencontre et qui font justice de l'universel. C'est-à-dire, ce qui se disait dans la révolution culturelle, c'est de l'intérieur d'un immense pays se réclamant classiquement, si je puis dire, du communisme, une entreprise qui destituait ce communisme de sa prétention universelle. Et que la formule fondamentale était, j'en cite plusieurs, mais la formule de Mao disant « Vous me demandez où est la bourgeoisie dans mon pays ?» Ben, je vous réponds, la bourgeoisie est dans le Parti communiste. Voilà. Et donc, il y avait la découverte intra-chinoise de ce que la lutte des classes continuait dans un pays se réclamant du communisme et qu'elle prenait la forme, en réalité, d'une lutte entre le mouvement de masse et le parti lui-même. Et le parti figé dans sa position étatique. Alors là, on peut aussi faire des critiques formalistes, mais fondées. Déjà Marx avait pointé l'extraordinaire difficulté que posait la question de l'État pour les révolutions communistes. Car, d'une part, les communistes devaient prendre le pouvoir. On ne voyait pas comment ils pouvaient rester sans prendre le pouvoir. Mais d'un autre côté, ce pouvoir était un poison. Et c'était aussi la tentation de s'installer dans ce pouvoir. Et au lieu de faire dépérir l'État, le dépérissement de l'État était la formule employée par Marx, au lieu de faire dépérir l'État, de le consolider et de le fermer totalement au pur profit de ceux qui avaient constitué l'appareil révolutionnaire, comme disait Mao, à créant la situation où la nouvelle bourgeoisie, il parlait de nouvelle bourgeoisie, est dans le Parti communiste. Alors ça nous éclairait beaucoup, parce que ça nous éclairait sur les raisons profondes pour lesquelles le Parti communiste français ne nous plaisait pas du tout. Il ne nous plaisait déjà pas avant, puisque s'il nous avait plu, franchement, moi j'aurais été au Parti communiste sans problème, j'aurais pas erré du côté de la social-démocratie, du PSU, etc., etc. Mais je voyais bien que dans l'espace du Parti communiste français, je n'avais aucune liberté politique d'aucune sorte. Là, ça nous éclairait là-dessus. En réalité, le communisme officiel est désormais scindé. Il y a une lutte qui est une lutte politique de classe entre deux orientations complètement différentes. Et en Chine, cela prend la forme finalement d'une sorte de révolution tout à fait particulière qui s'est appelée la révolution culturelle, dont Mao était le soutien et qui a fait que nous étions maoïstes. Voilà, nous étions maoïstes parce que nous étions de ce côté-là. Ceci dit, la révolution culturelle, il faut bien constater qu'elle a échoué, que les caciques du parti l'ont emportée, et qu'ils nous donnent maintenant le spectacle le plus complet qui puisse exister de ce qu'on peut appeler une bourgeoisie d'État, voilà, une bourgeoisie de parti.
Alors, parmi les choses, il me semble-t-il extrêmement intéressantes et pas forcément connues que vous présentez dans le livre, c'est le travail que vous menez justement au sein de ce groupe maoïste, donc qui est l'UCFML, l'Union des communistes français marxistes-léninistes. C'est deux choses qui me semblent très importantes. D'abord, le travail d'enquête considérable qui a été mené, parce que ça aussi, c'est l'un des principes, c'est qu'on n'agit pas si on ne sait pas de quoi on parle. Et l'autre chose, et ça, vous y revenez à plusieurs reprises dans le livre, c'est le refus de la logique purement oppositionnelle. C'est-à-dire qu'on peut effectivement soit vouloir le pouvoir pour s'en emparer et le garder, mais on peut aussi considérer que c'est assez confortable d'occuper une position de stricte négativité. Et ces deux choses-là sont, je pense, assez importantes dans votre parcours.
Oui, absolument. Et je pense qu'elles définissent l'aspect toujours, en un certain sens, conjoncturel de la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est aussi l'histoire. C'est-à-dire la politique, elle est la forme étatisée de l'histoire. Et donc, il faut toujours être dans une analyse de la situation. Et cette analyse de la situation, Mao donne de quantité d'exemples de cela, et il s'y connaissait, parce que les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir en Chine sont extraordinaires. Ça faisait beaucoup partie de la fascination qu'il exerçait, d'ailleurs, il faut dire. Mais il avait cette conviction qu'il résumait dans « qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole ». C'est-à-dire qu'il faut connaître la singularité vraiment pour la juger. Et pour la juger, on ne peut pas se contenter d'abstractions ou de principes. Il faut aller voir ce qui se passe. Il faut aller voir ce qui se passe. Donc il y avait une injonction militante comme ça qui nous séduisait à l'époque et qui nous a amenés en particulier, tous autant que nous sommes, là y compris la gauche prolétarienne, laissons de côté les vieilles querelles, nous a amené à une activité intense d'enquête, c'est-à-dire de liaison aux paysans bretons, aux ouvriers des grandes usines de la banlieue parisienne, au trafic des portuaires à Marseille, etc., etc. Une activité qui, dans les termes maoïstes, s'appelait l'activité de la liaison de masse. Et cette liaison de masse, nous l'avons prise absolument au sérieux. Et nous avons pu constater que c'est une activité politique passionnante, difficile, et que finalement, il faut la mener aussi loin qu'on peut. Et ce « peu » est apparu progressivement, dans la figure, je pense, d'une sorte de lassitude, c'est-à-dire, il y a eu un moment donné, je pense, entre les années 68 et sans doute peut-être une dizaine d'années en comptant large, enfin vers la fin des années 70, il y a eu là un champ d'expérience politique absolument remarquable qui restait divisé et qui n'a pas été victorieux, mais enfin, il n'était pas dans l'idée d'être absolument victorieux tout de suite, qui a principalement consisté en une série monumentale de liaisons de masse, d'enquêtes systématiques concernant les paysans, les ouvriers, les classes moyennes, par des groupes militants constitués. Mais à la fin des fins, sans doute parce que dans ce travail n'apparaissait nulle part la possibilité ou la probabilité d'une victoire, il y a eu une fatigue, fatigue qui, je crois, est une menace permanente des nouveautés politiques. Que la nouveauté politique, dans un monde cadenassé par le capital, quand même, il faut dire sérieusement cadenassé, c'est pas une petite domination. Que penser ? Que cette affaire va durer 100 ans je pense qu'on est là dans une expérience que j'ai partagée, hein, dans une expérience qui, à la fois, a montré la passion que l'on peut éprouver véritablement pour ces enquêtes, pour ces liens de jeunes intellectuels à des ouvriers venus du Rwanda, etc. La joie que ça peut donner, les figures transitoires que ça peut construire, et le fait que, implacablement, à travers et au-delà de tout ça, le monde ancien se referme comme ça, comme si sa blessure était guérie.
Alors, c'est ce que vous décrivez, c'est exactement aussi cette lassitude, et vous le dites à l'instant aussi, elle vient au moment aussi de la contre-révolution. Alors, on peut la nommer comme on veut, du début des années 80, qui est aussi un moment effectivement très singulier dans l'histoire récente, dans lequel, alors vous employez la formule du vieux monde qui se referme, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que les deux viennent arriver au même moment, c'est-à-dire à la fois la lassitude de l'énergie que demande ce travail politique que vous avez mené, et en même temps, les forces qui se réactivent et qui est une grande bascule, celle des années 80-90, vers une autre forme de capitalisme.
Bien sûr, bien sûr. On aurait dû d'ailleurs davantage méditer cela au départ. Il y a eu aussi, pèse toujours sur ce genre d'épisodes historiques, que la lassitude est proportionnelle en partie à l'enthousiasme initial. C'est-à-dire, il aurait peut-être été plus juste de faire un discours selon lequel, attention, soyez extrêmement patient, sachez que vous vous engagez dans cette affaire. Bon, on était quand même porté par une vision événementielle. Or, en réalité, si on regarde rétrospectivement, il y a eu un événement, 68, indubitablement, mais les forces qui se sont manifestées contre lui étaient gigantesques. Et elles ont été manifestées dès le début. Je pensais toujours qu'on n'a pas accordé suffisamment d'importance à la vigoureuse manifestation contre-révolutionnaire organisée dans le fil même des années 60 et qui a rassemblé des centaines de milliers de gens. On a fait un peu comme si on était, je ne dis pas au bord, mais qu'on était proche d'une transformation radicale. Et ça, c'est, quand ce n'est pas le cas, quand on le croit, mais que ce n'est pas le cas, c'est quand même une démobilisation importante et qui a pris, y compris chez les intellectuels français, la forme d'une capitulation totale, enfin, d'un ralliement à la démocratie parlementaire, etc., et où ils se sont mis même à être experts en dénonciation des États communistes, etc. Et donc, comme toujours, on a une bascule dans le contraire qui fait de ceux qui ne basculent pas une petite minorité.
Alain Madiou, merci beaucoup pour cette profonde évocation de ces années importantes et puis au plaisir de vous retrouver pour un prochain tome de ces mémoires d'outre-politique.
Oui, je peux vous dire simplement sur ce mémoire que je sais une chose, c'est que je vais essayer de marcher en sens inverse, c'est-à-dire de partir de la situation présente et de remonter jusqu'à son origine. Son origine que je situerai assez précisément en 81, dans l'élection de Mitterrand.
Très bien, écoutez, merci beaucoup et au plaisir de vous lire. Merci.
Merci à vous.